Guy de Maupassant, Le Bûcher. Lundi dernier est mort à Étretat un prince indien, Bapu Sahib Kandrao Gadwe, parent de Sa Hôtesse le Maharaja Gaidwar, prince de Baroda, dans la province de Gujarat, président de Bombay. Depuis 3 semaines environ, on voyait passer par les rues une dizaine de jeunes indiens, petits, souples, tout noirs de peau, vêtus de complet et coiffés de toques de palefreniers anglais. C'étaient de hauts seigneurs venus en Europe pour étudier les institutions militaires des principales nations de l'Occident. La petite troupe se composait de 3 princes, d'un noble ami, d'un interprète et de 3 serviteurs. Le chef de la mission était celui qui vient de mourir, vieillard de 42 ans, et beau-père de Sampatrao Krasivao, Gaigwar, frère de Sa Hôtesse, le Gaigwar de Baroda. Le gendre accompagnait le beau-père. Les autres Indiens s'appelaient Ganpatrao Shradvanrao, Gaigwar, cousin de Sa Hôtesse, et Kachero Kadivar. Fasoulet de Madame Samart, interprète et secrétaire, et les esclaves Ramchandra Brajaji, Gardu bin Pukaram, Kokate, Ramraja bin Favji. Au moment de quitter sa patrie, celui qui est mort l'autre jour fut saisi d'une crise affreuse de chagrin et persuadé qu'il ne reviendrait pas, il voulut renoncer à ce voyage, mais il dut obéir aux volontés de son noble parent, le prince de Baroda, et il partit. Ils vinrent passer la fin de l'été à Étretat, et on allait les voir, curieusement, chaque matin, prendre leur bain à l'établissement des Roses Blanches. Et voici 5 ou 6 jours, Bapu Sahib Kandrao Gadwe fut atteint de douleur aux gencives, puis l'inflammation gagna la gorge et devint une ulcération. La gangrène s'y mit, et lundi, les médecins déclarèrent à ses jeunes compagnons que leurs parents allaient mourir. L'agonie commença presque aussitôt, et comme le malheureux ne respirait plus qu'à peine, ses amis le saisirent, l'arrachèrent de son lit et le déposèrent sur les pavés de la chambre afin qu'il rendît l'âme étendue sur la terre, notre mère, selon les ordres de Brahma. Puis ils firent demander au maire, M. Boisset, l'autorisation de brûler le jour même le cadavre pour obéir toujours aux formelles prescriptions de la religion hindoue. Le maire, hésitant, télégraphia à la préfecture pour solliciter les instructions, en annonçant toutefois qu'une absence de réponse équivaudrait pour lui à un consentement. Aucune réponse n'étant venue à 9 heures du soir, il fut donc décidé, en raison de la nature infectieuse du mal qui avait emporté l'Indien, que la crémation du corps aurait lieu la nuit même, sous la falaise, au bord de la mer, à la marée descendante. On reproche aujourd'hui cette décision au maire qui a agi en homme intelligent, résolu et libéral, soutenu d'ailleurs et conseillé par les 3 médecins qui avaient suivi la maladie et constaté le décès. On dansait au casino ce soir-là. C'était un soir d'automne prématuré, un peu froid. Un vent assez fort soufflait du large, sans que la mer fût encore soulevée, et des nuages rapides couraient déchiquetés, filoqués. Ils arrivaient du bout de l'horizon, sombres sur le fond du ciel, puis à mesure qu'ils approchaient de la lune, ils blanchissaient, et passant vivement sur elle, la voilaient quelques instants, sans la cacher tout à fait. Les grandes falaises droites qui forment la plage arrondie d'Étretat et se terminent aux 2 célèbres arcades qu'on nomme les portes restaient dans l'ombre et faisaient 2 grandes taches noires dans le paysage doucement éclairé. Il avait plu toute la journée. L'orchestre du casino jouait des valses, des polkas et des quadrilles. Un bruit passa tout à coup dans les groupes. On racontait qu'un prince indien venait de mourir à l'hôtel des Bains. et qu'on avait demandé au ministre l'autorisation de le brûler. On n'en crut rien, ou du moins on ne supposa pas la chose prochaine, tant cet usage est encore contraire à nos mœurs, et comme la nuit s'avançait, chacun rentra chez soi. À minuit, l'employé du gaz, courant de rue en rue, éteignait l'une après l'autre les flammes jaunes qui éclairaient les maisons endormies, la boue et les flaques d'eau. Nous attendions, guettant l'heure où la petite ville serait muette et déserte. Depuis midi, un menuisier coupait du bois en se demandant avec stupeur ce qu'on allait faire de toutes ces planches sciées par petits bouts et pourquoi perdre tant de bonnes marchandises. Ce bois fut entassé dans une charrette qui s'en alla par des rues détournées jusqu'à la plage sans éveiller les soupçons des attardés qui la rencontraient. Elle s'avança sur le galet, au pied même de la falaise, et ayant versé son chargement à terre, les trois serviteurs indiens commencèrent à construire un bûcher un peu plus long que large. Ils travaillaient seuls, car aucune main profane ne devait aider à cette besogne sainte. Il était 1 heure du matin, quand on annonça aux parents du mort qu'ils pouvaient accomplir leur œuvre. La porte de la petite maison qu'ils occupaient fut ouverte, et nous aperçûmes, couchés sur une civière, dans le vestibule étroit à peine éclairé, le cadavre enveloppé de soie blanche. On le voyait nettement étendu sur le dos, bien dessiné sous ce voile pâle. Les Indiens, graves, debout devant ses pieds, demeuraient immobiles, tandis que l'un d'eux accomplissait les cérémonies prescrites en murmurant d'une voix basse et monotone des paroles inconnues. Il tournait autour du corps, le touchait parfois, puis prenant une urne suspendue au bout de 3 chaînettes, il l'aspergea longtemps avec l'eau sacrée du Gange que les Indiens doivent toujours emporter avec eux où qu'ils aillent. Puis la civière fut enlevée par 4 d'entre eux qui se mirent en marche lentement. La lune s'était couchée, laissant obscures les rues boueuses et vides, mais le cadavre sur la civière semblait lumineux, tant la soie blanche jetait d'éclat. Et c'était une chose saisissante de voir passer dans la nuit la forme claire de ce corps, porté par ces hommes à la peau si noire qu'on ne distinguait point dans l'ombre leur visage et leurs mains de leurs vêtements. Derrière le mort, 3 Indiens suivaient, puis, les dominant de toute la tête, se dessinaient, enveloppés dans un grand manteau de voyage d'un gris tendre, la haute silhouette d'un Anglais, homme aimable et distingué, qui est leur ami, qui les guide et les conseille à travers l'Europe. Sous le ciel brumeux et froid de cette petite plage du Nord, je croyais assister à une sorte de spectacle symbolique. Il me semblait qu'on portait là, devant moi, le génie vaincu de l'Inde, que suivait, comme on suit les morts, le génie victorieux de l'Angleterre, habillé d'un Ulster gris. Sur le galet roulant, les 4 porteurs s'arrêtèrent quelques secondes pour reprendre haleine, puis repartirent. Ils allaient maintenant à tout petits pas, pliant sous la charge. Ils atteignirent enfin le bûcher. Il était construit dans un repli de la falaise, à son pied même. Elle se dressait au-dessus, toute droite, haute de 100 mètres, toute blanche, mais sombre dans la nuit. Le bûcher était haut d'1 mètre environ. On disposa dessus le corps. Puis un des diens demanda qu'on lui indiquât l'étoile polaire. On la lui montra, et le Raja mort fut étendu, les pieds tournés vers sa patrie. Puis on versa sur lui 12 bouteilles de pétrole, et on le recouvrit entièrement avec des planchettes de sapin. Pendant près 1 heure encore, les parents et les serviteurs surélevèrent le bûcher, qui ressemblaient à ces piles de bois que gardent les menuisiers dans leurs greniers. Puis on répandit sur le faîte 20 bouteilles d'huile et on vida tout au sommet un sac de menus copeaux. Quelques pas plus loin, une lueur tremblotait dans un petit réchaud de bronze qui demeurait allumé depuis l'arrivée du cadavre. L'instant était venu. Les parents allèrent chercher le feu. Comme il ne brûlait qu'à peine, on versa dessus un peu d'huile, et brusquement, une flamme s'éleva, éclairant de haut en bas la grande muraille de rochers. Un Indien, penché sur le réchaud, se releva, les deux mains en l'air, les coudes repliés, et nous vîmes tout à coup surgir, toute noire sur l'immense falaise blanche, une ombre colossale, l'ombre de Bouddha dans sa pose hiératique. Et la petite toque pointue que l'homme avait sur la tête simulait elle-même la coiffure du dieu. L'effet fut tellement saisissant et imprévu que je sentis mon cœur battre comme si quelque apparition surnaturelle se fût dressée devant moi. C'était bien elle, l'image antique et sacrée, accourue du fond de l'Orient à l'extrémité de l'Europe, éveillant sur son fils qu'on allait brûler là. Elle disparut, on apportait le feu, les copeaux au sommet du bûcher s'allumèrent, puis l'incendie gagna le bois et une clarté violente illumina à côté le galet et l'écume des lames brisées sur la plage. Elle grandissait de seconde en seconde, éclairant au loin sur la mer la crête dansante des vagues. La brise du large soufflait par rafales, accélérant l'ardeur de la flamme qui se couchait, tournoyait, se relevait, jetait des milliers d'étincelles. Elle montait le long de la falaise avec une vitesse folle et se perdant au ciel, se mêlait aux étoiles dont elle multipliait le nombre. Des oiseaux de mer réveillés poussaient leurs cris plaintifs et décrivant de longues courbes venaient passer avec leurs ailes blanches étendues dans le rayonnement du foyer, puis rentraient dans la nuit. Bientôt le bûcher ne fut plus qu'une masse ardente, non point rouge mais jaune, d'un jaune aveuglant, une fournaise fouettée par le vent. Et tout à coup, sous une bourrasque plus forte, il chancela, s'écroula en partie en se penchant vers la mer, et le mort, découvert, apparut tout entier, noir sur sa couche de feu, et brûlant lui-même avec de longues flammes bleues. Et le brasier s'étant encore affaissé sur la droite, le cadavre se retourna comme un homme dans son lit. Il fut aussitôt recouvert avec du bois nouveau, et l'incendie recommença plus furieux que tout à l'heure. Les Indiens, assis en demi-cercle sur le galet, regardaient avec des visages tristes et graves. Et nous autres, comme il faisait très froid, nous nous étions rapprochés du foyer jusqu'à recevoir dans la figure la fumée et les étincelles. Aucune odeur autre que celle du sapin brûlant et du pétrole ne nous frappa. Et des heures se passèrent, et le jour apparut. Vers 5 heures du matin, il ne restait plus qu'un tas de cendres. Les parents les recueillirent, en jetèrent une partie au vent, une partie à la mer, et en gardèrent un peu dans un vase d'airain qu'ils rapporteront aux Indes. Ils se retirèrent ensuite pour pousser les gémissements dans leur demeure. Ces jeunes princes et leurs serviteurs, disposant des moyens les plus insuffisants, ont pu achever ainsi la crémation de leurs parents d'une façon parfaite, avec une adresse singulière et une remarquable dignité. Tout s'est accompli suivant le rite, suivant les prescriptions absolues de leur religion. Leur mort repose en paix. Ce fut dans Étretat, un jour levant, une indescriptible émotion. Les uns prétendaient qu'on avait brûlé un vivant, les autres qu'on avait voulu cacher un crime, ceux-ci que le maire serait emprisonné, cela que le prince indien avait succombé à une attaque de choléra. Des hommes s'étonnaient, des femmes s'indignaient. Une foule passa la journée sur l'emplacement du bûcher, cherchant des fragments d'os dans des galets encore chauds. On en ramassa de quoi reconstituer 10 squelettes, car les fermiers de la côte jettent souvent à la mer leurs moutons morts. Les joueurs enfermaient avec soin dans leur porte-monnaie ces fragments divers. Mais aucun d'eux ne possède une parcelle véritable du prince indien. Le soir même, un délégué du gouvernement venait ouvrir une enquête. Il semblait d'ailleurs juger ce cas singulier en homme d'esprit et de raison. Mais que dira-t-il dans son rapport? Les Indiens ont déclaré que si on les avait empêchés en France de brûler leurs morts, ils l'auraient emporté dans une terre plus libre où ils auraient pu se conformer à leurs usages. J'ai donc vu brûler un homme sur un bûcher, et cela m'a donné le désir de disparaître de la même façon. Ainsi, tout est fini tout de suite. L'homme mate l'œuvre lente de la nature, au lieu de la retarder encore par le hideux cercueil où l'on se décompose pendant des mois. La chair est morte, l'esprit a fui. Le feu qui purifie disperse en quelques heures ce qui fut un être. Il le jette au vent, il en fait de l'air et de la cendre, et non point de la pourriture infâme. Cela est propre et sain. La putréfaction sous terre dans cette boîte close où le corps devient bouilli, une bouillie noire et puante, a quelque chose de répugnant et d'atroce. Le cercueil qui descend dans ce trou fangeux serre le cœur d'angoisse. Mais le bûcher qui flambe sous le ciel a quelque chose de grand, de beau et de solennel.